Ça a du bon.
France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu.
Il est 20h, vous écoutez France Bleu.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu. Décibel sur France Bleu. 1, 2, 3, 4. Émilie Mazoyer.
Il est 20h, à 20h30, on passera en mode football avec Pia Clément et toute l'équipe des sports de France Bleu en direct du Stade de France pour le match France-Israël. Et d'ici là, de la musique, oh oui, il y en aura, il y aura même un jeu, le Blind Test à gagner, ce sera l'album de Mustang, nos invités ce soir. Excellent groupe de rock français. Pour vous inscrire au Blind Test, il faut appeler Sadika qui vous attend au standard 0810 055 056. Émission raccourcie, mais il y a quand même les fondamentaux, le Blind Test donc, je vous le disais, et puis le Festival Idéal, un petit peu avant 20h30, des lives de Jennifer et de Roy Orbison. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle le Festival Idéal, c'est un truc un peu imaginaire, évidemment que nulle part au monde, il n'y aurait Jennifer et Roy Orbison ensemble, ça n'aurait pas de sens, sauf qu'en fait, les deux sont formidables, on aime les deux, donc les deux sont sur France Bleu. Là, en revanche, mon cœur saigne, hein, puisqu'il a fallu choisir entre Françoise Hardy, la maison où j'ai grandi, et Michel Polnareff dans la maison vide. Deux chansons magnifiques, deux chansons des années 60 et deux chansons autour du thème de la maison. Sauf que Vox Populi, Vox Dei, comme disait l'autre, qui d'ailleurs n'en était pas très content, il me semble, à l'époque, vous avez parlé, vous avez choisi une écrasante majorité, 71% de vos votes pour L'Amiral, Michel Polnareff, qui en 1969 vous emmène dans la maison vide. Au début, il y a ces sons de violon comme ça, un petit peu inquiétant. On se demande ce qui se passe. Puis vous allez voir après, ça part. Enfin, je dis ça. Vous la connaissez, la chanson. On remonte le son, on se régale. On vous remercie d'avoir voté.
Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans la maison vide, dans ma chambre vide, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantant l'automne. Moi, je n'attends personne. Je me souviens, moi, de ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre et le passé comme une symphonie fait son entrée dans cette chambre. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe la nuit à écouter cette symphonie où je l'ai fini et qui me rappelle que belle. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantant l'automne. Moi, je n'attends personne. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, 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 dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantent dans l'automne. Moi, je n'attends personne.
Incroyable cette chanson de Polnareff dans la maison vide à 20h04. Vous êtes sur France Bleu.
Décibels. toute l'actu musicale est sur France Bleu.
Alors souvent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous me dites? Vous mettez des petits cœurs, ça je suis très contente. Vous aimez beaucoup quand on vous met les vidéos des interviews de Décibel. Bah, sachez qu'on fait régulièrement, que ce soit Louane, Julien Doré, récemment Oshi aussi. Et puis, vous râlez un petit peu, mais c'est normal, hein, on est là pour ça. C'est l'amour, on se dit les choses comme on les pense. Et je n'annonce pas assez en avance les invités de l'émission, me dites-vous. Ok, très bien. Donc, on va se mettre d'accord. Tous les jours, je vous ferai un petit, si vous voulez, un petit récap des invités à venir. Donc demain, vendredi 15 novembre, notre invité c'est Louis Chédid. Oh, passion, loulou.
Je suis là. Je suis là.
Il sort un nouvel album génial qui s'appelle Rêveur. On est en plein dans quelque chose de lumineux, de positif. On respire, on ouvre les poumons. Enfin, je sais pas. C'est un album qui fait énormément de bien, l'album de Louis Chédid. Il sort demain et donc il vient fêter la sortie de l'album demain en direct dans Décibel. Et puis, on peut prendre un petit peu d'avance si vous voulez. Je peux vous donner le programme de la semaine prochaine. Comme ça, vous savez, lundi, on sera avec Aël Pagny, la fille de Florent Pagny, qui l'a suivi tous les jours en photo, notamment pendant son combat contre le cancer. Aël Pagny, donc, qui sera là avec nous lundi pour le bouquin de photos consacré à son papa Florent Pagny. Mardi, Clara Luciani, puisque son nouvel album sort demain. Et puis ensuite, le reste de la semaine, Catherine Lara, Amir et Jennifer pour la sortie de son nouvel album. Voilà, vous savez tout. Maintenant, vous pouvez plus râler. Et maintenant, nous, on peut jouer au Blind Test avec Olivier et avec Benoît. Salut messieurs.
Bonsoir. Oui, bonsoir Émilie. Bonsoir Benoît, si j'ai bien entendu.
Oui, Olivier, t'as bien entendu. C'est Benoît, exactement.
Bonsoir Olivier.
Messieurs, à gagner ce soir au Blind Test, c'est Mega Phoenix, le très bel album nouveau qui vient de sortir du groupe Mustang. Je ne sais pas si vous connaissiez Mustang.
Moi, non, Olivier.
Non, moi non plus, honnêtement, non, pas, je crois pas.
Eh ben, c'est super, c'est à découvrir. Alors, vous allez voir, c'est un groupe de rock français, mais voilà, très varié. Il y a évidemment des guitares, mais il y a aussi des synthés, il y a plein de choses intéressantes. Et je suis bien contente, alors, de vous les faire découvrir. En revanche, normalement, si j'ai bien fait mon travail, les chanteurs qui sont ce soir dans le Blind Test, vous les connaissez et vous allez même les reconnaître. Et vous allez même les reconnaître très rapidement, puisque c'est un peu le but du Blind Test, retrouvez le plus rapidement possible le nom des interprètes des chansons que je vous passe. Le thème de ce soir, les chanteurs qui ont une voix aiguë. Est-ce que ça vous inspire?
Pas plus que Mustang.
Mais non, vous avez des grosses voix tous les deux.
Bah, oui, on va dire ça comme ça. Mais...
Bah oui, c'est ça. Non, bah voilà, Polnareff à l'instant. Vous voyez, je suis fou de vous. Oh,
Oui, c'est comme ça, oui.
C'était complètement faux, mais c'était quand même très aigu. C'était, voilà.
C'est vrai.
Voilà. Comme une craie sur un tableau, vous voyez.
Oui, oui, ça, d'accord.
Voilà. Donc, des chanteurs aux voix aiguës. Je suis sûre que vous allez les reconnaître. Et à la fin, tout le monde gagne l'album de Mustang. Ok?
Bien.
Allez, on y va. Une première chanson, un chanteur qui a une voix aiguë et qui peut monter très haut dans les aigus. Mais qui est-il?
Benoît.
Ah,
c'est
Benoît. Oui.
On est ex-écho, là, émission.
Mais oui, vous avez trouvé en même temps, ce qui est formidable. C'est comme ça, qu'est-ce que j'ai peur. Et alors, il a une voix très proche de la voix de Zazie, en fait. Et d'ailleurs, c'est
oui,
elle
c'est
qui lui a écrit cette chanson. Écoutez.
Oui, la première, effectivement. Ouais, c'est elle.
Voilà. Elle a écrit pour lui, mais comme si elle écrivait pour elle. Ouais, c'est trop bien. Et c'est le premier album de Willem en sortant de Nouvelle Star. Absolument incroyable. Ouais. Et cette chanson de
Willem. Première chanson.
Bah oui.
Première chanson, effectivement. Quoi.
Vous voyez, vous êtes très forts, Benoît et Olivier.
Ah, ben là, oui, avec Willem, oui.
Ah, mais la suite, ça va bien se passer. Ne vous en faites pas. On en a plein des très connus chanteurs à voix aiguë en France. Regardez,
enfin,
écoutez surtout celui-ci.
Benoît. Ouais, mais
hey.
Oui.
Hey. jusqu'au ciel. Mais oui, c'est M. Olivier et Benoît, encore une fois, vous avez tous les deux trouvé la réponse. Vous êtes très forts. Ah là, là il va monter très haut, là, je crois, dans les aigus. Pas avec ses choristes. Il est merveilleux. M, Benoît et Olivier, vous l'avez trouvé. Allez, un petit troisième, un autre chanteur. Peut-être le père de tous les chanteurs à voix aiguë de France qui font de la variété, parce que mon Dieu, lui, oh là là.
Benoît, c'est Daniel Balavoine.
Bravo! Daniel Balavoine, là c'est impossible, n'essayez surtout pas ça au karaoké, il va vous arriver des bricoles.
Non.
Trop dangereux, beaucoup trop périlleux.
Non, je crois que c'est lui qui avait le plus d'octaves en fait, lui et puis avec le maréchal, Grégory le maréchal.
Grégory le maréchal de la Star Academy. Ouais. Ah oui, c'est vrai que lui aussi, mais d'ailleurs il arrivait à chanter cette chanson-là, et c'était pas le cas de
tout
le
monde. Oui, c'est vrai, oui.
Là,
je cours. Je ne sais combien d'octaves il faisait, quoi. Mais bon, c'est vraiment un truc à se déglinguer des cordes vocales, quoi.
Voilà.
Comme tu dis, Émilie, quoi.
Nous, faut pas qu'on essaie. Nous, on est foutus d'avance.
On va pas le faire au karaoké. On va pas le faire.
Benoît et Olivier, merci d'être venus jouer. Ça m'a fait trop plaisir.
Merci à vous.
Eh ben, nous aussi. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Toi aussi, Benoît, je pense.
Oui. Exactement, tout à fait.
On a tous passé un bon moment.
Ah, bah, tu m'as battu,
très bien.
À la loyale.
Mais, c'était
beau.
Oui, voilà, on a tous gagné. J'avais pensé à Balavoine quand même, j'avais pensé. Mais ouais.
Non, c'était très bien. Je vous envoie... Je vous envoie l'album de Mustang et je vous remercie. Bisous les gars.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Découverte de Mustang du rock français.
Ah bah oui, vous allez adorer. Allez, Asaf Avidan maintenant. Alors lui, il est israélien, il a 44 ans et il a une voix quelque part entre Janis Joplin et Robert Plant. Mais vous la connaissez, sa chanson.
We'll be right back. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.
Version remix de One Day Reckoning Song, c'était le gros tube des années 2012-2013. Oui, ça a plus de 10 ans maintenant. Asaf Avidan était sur France Bleu et devrait normalement guérir à tous les gars qui complexent un peu de pas avoir une grosse voix d'ours. Les voix aiguës, c'est aussi très sexy.
Toute l'actu musicale est sur France Bleu dans Décibel.
Alors, parlons de notre découverte du jour à 20h16, une jeune femme très talentueuse qui s'appelle Stiletto. Si de près ou de loin, vous avez touché un téléphone portable qui avait accès aux réseaux sociaux entre 2021 et maintenant, vous avez forcément entendu ça.
Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres, je rêve.
Elle s'appelle Stiletto et Gaffe aux autres, c'est une chanson de Ben Mazuet au départ sur son album Paradis. Elle a repris cette chanson, cette Gaffe aux autres, que Ben Mazuet a entendu, a trouvé très jolie en 2021. Et il l'a invité à le rejoindre sur scène en 2022. Voilà, c'était plutôt chouette. Stiletto est monté sur scène avec lui. C'est vrai qu'elle s'est fait au départ remarquer par ses reprises qui sont particulièrement réussies. Elle a plus de 2 millions d'abonnés maintenant sur les réseaux.
Après l'orage, avec des pierres, les gens feront la fête. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime.
Et ces chansons à elle, alors, Stiletto, eh ben elles arrivent, mes amis, évidemment, on attend avec impatience l'album. N'empêche, j'ai déjà eu pas mal de concerts. Elle a joué au Solidays, le grand festival de solidarité sida à l'hippodrome de Longchamp, à côté de Paris. Elle vient même de faire un Olympia au mois d'octobre, Stiletto. Et puis, elle est annoncée le mercredi 16 avril au Printemps de Bourges pour une très très belle soirée, puisque c'est Stiletto qui ouvrira, suivi de Jean-Louis Aubert et Clara Luciani, s'il vous plaît. Donc c'est plutôt que du bon qui s'annonce pour Stiletto. Elle est ce soir notre découverte, notre coup de cœur. Et voici une chanson à elle, Stiletto. Ça s'appelle « Faut que tu m'aimes ».
Faut que tu m'aimes, car moi toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, faut que tu la trouves jolie ma voix et mes poèmes. Faut que tu m'aimes, faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je suis blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il n'y aura pas de problème, que la lune est pleine. Pourquoi j'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment, de plus être dans le coup. J'ai peur de plus être la même, que tu me jettes pour la prochaine venue. Que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. J'ai plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Faut que tu m'aimes, sinon j'ai le cœur qui est pas tranquille. Faut que tu m'aimes, quand je sais même plus comment je m'habille, comment je m'anime, que j'hiberne. Faut que tu m'aimes, quand je crois plus à ce que je fais. Faut que tu m'aimes, quand j'ai l'impression de tout rater. Faut que tu m'aides, quand je me sens comme une merde. J'ai peur de plus être la même, que tu me jettes pour la prochaine venue. Que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. J'sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Pourquoi je remarque que les pouces s'emballent les mauvais démons? Pourquoi j'entends pas bien quand tu dis c'est bon? Pourquoi j'entends c'est nul quand tu dis c'est super? C'est super. j'attends toujours l'autorisation? Pourquoi y a pas de confiance dans ma maison? Pourquoi je cherche toujours à plaire? Dis-moi que toi aussi t'es comme ça. Toi aussi t'es comme ça. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, sinon je perds pied. Je sais plus où aller, ni comment je m'appelle. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi.
Stiletto, faut que tu m'aimes. On attend l'album avec impatience. Et là, elle vient de sortir une version acoustique de la chanson que vous venez d'entendre, faut que tu m'aimes. Donc écoutez, à découvrir, n'hésitez pas.
Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu.
C'est l'heure du festival idéal, mes amis. Ce soir, un petit peu écourté, je vous rappelle, à 20h30, du foot, France-Israël, Stade de France et toute la team des sports de France Bleu avec vous. Mais avant, donc, un petit bout du festival idéal. Alors, c'est très varié ce soir, c'est-à-dire qu'il y aura Jennifer tout à l'heure. Déjà, parce que bon, moi, j'adore Jennifer. Elle sort un nouvel album vendredi prochain. Et surtout, demain, c'est son anniversaire. Donc, ce sera votre petite pense-bête. Vous écoutez Jennifer ce soir et comme ça demain vous lui envoyez des petits messages d'amour sur les réseaux, c'est cool. Quant à Roy Orbison que nous écoutons maintenant, c'est parce que lui aussi, je pense que pour avoir une vie heureuse et des oreilles détendues et épanouies, il faudrait écouter tous les jours la voix de Roy Orbison. Le concert qu'on écoute là, il est particulier parce qu'il a eu lieu le 4 décembre 1988 et Roy Orbison est mort le 6 décembre 1988, deux jours avant sa mort. Il se savait pas malade, il a fait une crise cardiaque deux jours plus tard. C'est donc devenu son last concert. Et il y a chanté évidemment un de ses plus grands tubes, Pretty Woman.
We'll be right back.
va se réchauffer un petit peu, d'accord? Chante-t-il plus fort que les supporters de l'équipe de France? Je me tourne vers l'experte Pia Clément. Bonsoir Pia.
Bonsoir Émilie. Ce soir, je pense que oui.
Oui, c'est ça.
Je pense que les fans de Jennifer écrasent les supporters de l'équipe de France.
France-Israël en direct du Stade de France. C'est dans une minute ici sur France Bleu. Pia, avec toute l'équipe des sports de France Bleu, on dit quand même allez les Bleus.
Évidemment qu'on dit allez les Bleus, bien sûr Émilie, c'est un match de foot, on a envie de voir du foot et j'espère que c'est ce qui va se passer ce soir.
Et merci à toute l'équipe de l'émission, Iris, Vincent, Romain, Sadika, Franck, Décibel, c'est fini, à demain avec Louis Chédid.
Bientôt, votre radio change de nom.
Sur France Bleu, on parle d'ici, vous le savez. Et dans quelques semaines, votre radio locale va tout simplement s'appeler Ici. On change la déco, mais pas les fondamentaux. L'actu locale, bien sûr, la bonne humeur, beaucoup, et la proximité. Parce qu'être ici, eh ben, c'est être ensemble.
En 2025, France Bleu devient Ici. Tout France Bleu avec l'équipe de France de football. France, Israël, Pia Clément.
Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur France Bleu si vous nous rejoignez pour écouter le match de l'équipe de France et l'avant-dernier match de la phase de groupe de Ligue des Nations. Et vous le savez bien évidemment, c'est Israël qui est l'équipe qui vient jouer ce match au Stade de France ce soir. Un contexte lourd, compliqué, pesant autour de ce match. Un contexte aussi sécuritaire avec 4000 policiers et forces de l'ordre qui sont autour du Stade de France. On va tout de suite partir au Stade de France avec nos deux journalistes qui sont là-bas, Jean-Pierre Blimaud et Nicolas Perronnet. Bonsoir messieurs.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, on a envie tout de suite de poser un peu le décor de cette soirée qui s'annonce particulière, unique peut-être dans l'histoire des Bleus. Comment ça se passe autour de vous? Comment se comporte le Stade de France pour l'instant?
Alors pour l'instant, tout se passe très bien, je tiens à rassurer tout le monde. Autour du Stade de France, dans le Stade de France, c'est une ambiance de match de football à laquelle on assiste ce soir. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de forces de sécurité, de mesures de sécurité en dehors et à l'intérieur de ce Stade de France. On pourra y revenir d'ici quelques instants, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, eh bien, les spectateurs qui garnissent les tribunes du principal stade de notre pays, eh bien, mettent une ambiance bon enfant, relativement calme quand même, parce que c'est vrai aussi que ce soir il n'y aura pas 75-80 000 personnes comme habituellement lors des matchs de l'équipe de France, mais seulement peut-être 13, 14, 15 000. On a un petit peu de mal à avoir le chiffre exact de la part de la fédération, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que pour le moment tout se passe dans le calme. On a vu aux abords du Stade de France des supporters arriver tranquillement, sereinement. Ils nous ont dit certains qu'ils souhaitaient assister simplement à un match de football comme un autre. Évidemment, ce soir c'est aussi un match comptant pour une compétition qui n'est pas majeure, la Ligue des Nations. On va y revenir d'ici quelques instants aussi si vous le voulez, mais c'est vraiment un public qui attend de voir du foot ce soir, malgré le contexte pesant autour de ce match, malgré l'impressionnant déploiement de forces de sécurité. Il faut rappeler que des policiers, des gendarmes sont disposés un petit peu partout autour. Il y a 4000 personnes par exemple pour assurer la sécurité. Ça fait quasiment une personne pour 3 à 4 spectateurs, ce qui est énorme. Et puis il y a aussi quand même une petite déception pour ce match qui a lieu un jeudi soir dans ce Stade de France qui sera donc très largement dégarni. C'est que ça nous rappelle de mauvais souvenirs, l'ambiance des matchs pendant le Covid. Hein. Vous savez, Pia, rappelez-vous les matchs à huis clos en 2020, les matchs aussi avec des jauges réduites un petit peu après, où on a vu déjà l'équipe de France jouer sans aucun spectateur, en tout cas payant. Et ça nous rappelle un petit peu tout ça. Mais mis à part la période Covid, il faut souligner que c'est la plus faible affluence pour un match de l'équipe de France depuis l'inauguration du stade au début de l'année 98. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, ce match France-Israël. Petite compétition mineure, mais qui compte quand même, car ce soir, il y a aussi un enjeu, évidemment, pour se qualifier en quart de finale de cette Ligue des Nations, face à une nation en guerre, qui a été ultra protégée, en tout cas pour ses joueurs. Et on espère que le foot va prendre le pas sur tout le contexte géopolitique actuel.
On est là pour ça aussi, Jean-Pierre Blimaud, justement, pour couvrir ce match de football, comme du football, parce que c'est du football. Jean-Pierre, juste une question sur le public qui est là ce soir. Est-ce que vous avez vu quand même dans le public des enfants, par exemple? Est-ce que des enfants sont présents? Est-ce que vous avez vu aussi des sourires? Ou est-ce que, voilà, les...
Oui. Des sourires sans contexte, des enfants, non, très peu. Il faut dire qu'on est en semaine, ce ne sont pas les vacances scolaires. C'est jeudi soir, évidemment, pour monter des villes en dehors de la région parisienne, c'est compliqué. On a vu, par exemple, un père et son fils venir au match, mais le papa avait au moins 40 ans. Le fils avait au moins 40 ans. Donc, c'est aussi une histoire de famille, mais il y a très très peu, voire quasiment pas d'enfants. Ce qui est aussi assez agréable à regarder dans cet avant-match, c'est que actuellement vous avez le speaker du Stade de France qui est en train d'égrener le nom des joueurs des Bleus de l'équipe de France, et il y a plein de drapeaux qui s'agitent. Alors il y a des drapeaux français évidemment avec une écrasante majorité, il y a des drapeaux israéliens, une petite centaine de spectateurs qui donc se réclament de l'équipe, enfin en tout cas qui soutiennent l'équipe d'Israël, ont été isolés dans un coin, dans un virage du Stade de France. Ils abordent évidemment leur couleur, mais il y a aussi parmi les supporters français des drapeaux israéliens, et tout cela se passe dans une ambiance tout à fait correcte, conviviale et évidemment bien encadrée, évidemment que ce match n'est pas un match comme les autres, mais pour le moment ici, ce qui se passe au Stade de France, ça se passe tout à fait correctement comme un vrai match de foot.
Merci beaucoup Jean-Pierre Blimeau. Et comme l'a dit Didier Deschamps en conférence de presse hier, il faut faire en sorte que ça reste un match de foot malgré tout. Et justement, on va accueillir maintenant notre consultant. Il est ancien joueur de foot. Il a raccroché il n'y a pas si longtemps que ça les crampons. Il a été formé aux Girondins de Bordeaux et c'est aussi à Bordeaux qu'il a fait la plus grande partie de sa carrière. Il a aussi notamment joué au FC Séville et à Saint-Étienne. Benoît Trémoulinas est avec nous. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Merci beaucoup Benoît d'être avec nous. Alors on l'entend au son derrière vous, vous n'êtes pas au Stade de France, vous êtes plutôt dans une boîte de conserve, une cuisine, un salon.
Exactement, je suis en vase clos.
En vase clos. Benoît, merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on va essayer de se concentrer sur le football pendant le match. Simplement, en tant que joueur, est-ce que vous avez vécu parfois des ambiances d'avant-match et des ambiances de match aussi sortant de l'ordinaire que celle de ce soir?
Alors effectivement, j'ai pas été soumis à ce cas de figure, mais je vous avoue que oui, c'est un contexte inhabituel pour les joueurs, hein, avec en amont le conflit géopolitique, hein, qui est présent dans la tête de tous. Forcément, étant donné qu'il est relayé quotidiennement par les médias vu la gravité du contexte, il y a aussi cette date du 13 novembre, hein, où il y a aussi une minute de silence qui a été opérée hier en hommage aux victimes des attentats. Donc ouais, effectivement, ça doit être aussi compliqué pour les joueurs d'aborder ce match. Mais après, j'imagine qu'une fois sur le terrain, avec l'adrénaline, l'aspect technique et sportif, il prendra le dessus pour gagner ce match. Parce que malgré tout, c'est un match à enjeu, même si c'est à la Ligue des Nations et qu'on dit que c'est une compétition mineure, c'est un match qu'il faut gagner.
Oui, qu'il faut gagner, puisque quand on porte le maillot de l'équipe de France, qui a été votre cas à 5 reprises, c'est pas anodin et on doit faire de son mieux pour que ça se passe bien. Je vous propose, Jean-Pierre et Benoît, qu'on écoute un entretien qu'on a enregistré cet après-midi à France Bleu. C'est notre journaliste Emmanuel Collardet qui l'a réalisé, ça dure 3 minutes. C'est un entretien avec un spécialiste de géopolitique du sport, il s'appelle Jean-Baptiste Guégan, il connaît aussi très bien le milieu du football. Emmanuel Collardet lui a demandé de poser un peu le décor de cette soirée sur le plan géopolitique pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Et donc Emmanuel Collardet a commencé par demander à Jean-Baptiste Guégan s'il avait déjà connu un contexte pareil.
Dans un tel contexte, c'est une première, c'est-à-dire que on a à la fois l'actualité internationale qui rencontre des enjeux de politique intérieure, dans un contexte inflammable, avec en plus une crise sportive, puisque les Bleus attirent moins, ils sont en pleine affaire Mbappé. Donc c'est une première, et effectivement, tout le monde regarde ce match avec finalement un pas de recul.
Les violences à Amsterdam commises la semaine dernière contre les supporters israéliens du Maccabi Haïfa, parfois aussi par ces mêmes supporters, ces violences, elles ont rendu le contexte du match encore plus tendu?
Effectivement, les violences auxquelles on a assisté à Amsterdam, de la part finalement des supporters israéliens et des locaux, ont rajouté une dimension dramatique finalement au match France-Israël. D'abord parce qu'on a des images qui sont associées, qu'on avait perdu l'habitude de voir finalement en Europe, et qu'ensuite on a eu un emballement médiatique, ce qui fait que tout le monde s'est positionné, il y a une récupération politicienne, et ça a encore une fois accentué finalement la dimension politique et géopolitique du match des Bleus contre Israël au Stade de France. Et c'est aussi pour ça que dans ce contexte-là, on pouvait pas finalement faire pire, puisqu'on est sur un match qui est politisé à tous les niveaux, avec en plus une actualité chaude qui vient dramatiser encore en plus l'événement.
Finalement, le sport rattrapé par la politique, hein, c'est loin d'être une première, mais c'est un petit peu tout ce que les instances sportives mondiales détestent. Hein, on parle de la FIFA et puis encore plus du Comité Olympique International. Est-ce qu'il y a une fatalité à ça?
À partir du moment où le football et le sport reposent sur des sélections nationales, on aura de toute façon une politisation du sport. Le sport est naturellement géopolitique et politique, donc ça changera pas. Et puis tant qu'il y aura des intérêts business aussi, ça changera pas. Aujourd'hui, Israël n'est pas sanctionné, ni par l'UEFA, ni par le CIO, ni par la FIFA. Et donc cette sélection peut jouer avec les autres. Et donc dans ce contexte-là, à partir du moment où il faut remplir les grilles des médias où il y a des engagements finalement avec des partenaires et des diffuseurs, il faut des matchs. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut le regarder, c'est-à-dire que la politisation du sport, elle ne changera pas, Mais en plus de ça, il y a des enjeux au sein même des fédérations internationales pour que ça continue. Et c'est pas en augmentant le nombre de matchs que ça va cesser.
Est-ce que le sport est condamné, dernière question, Jean-Baptiste Guégan, est-ce que le sport est condamné à être perturbé par les crises géopolitiques mondiales, comme celle actuellement, celle du Proche-Orient notamment ?
Alors le sport, effectivement, doit continuer à faire face à sa dimension géopolitique, et on parle vraiment d'une guerre du sport. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que ça peut aussi très bien se passer. C'est-à-dire que ça peut être un levier hein, de développement, de paix, de rapprochement. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On a tendance à voir systématiquement les tragédies et les problèmes. Mais on peut aussi voir des États se rapprocher par le sport. On se souvient par exemple des matchs entre l'Iran et les États-Unis, ou même des efforts faits un temps par la Corée du Nord avec la Corée du Sud. Donc le sport est aussi un moyen du pire, mais aussi du meilleur. C'est peut-être ça qu'il faut garder. C'est ce match France-Israël, c'est un match parmi d'autres. Il peut être aussi le point de départ de quelque chose. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Le pire n'est jamais certain.
Voilà, espérons que ce soit le départ de quelque chose. Merci Jean-Baptiste Guégan, merci à Emmanuel Collardet qui l'a interviewé. Jean-Pierre Blimaud, retour au Stade de France. Les hymnes sont en train de résonner dans le Stade de France.
Avec notamment pour commencer l'hymne israélien, ce qui était prévu bien évidemment par le protocole. Entendez bien sûr derrière moi les applaudissements puisque l'essentiel des spectateurs sont venus ici pour voir ce match contre Israël et maintenant la Marseillaise. La Marseillaise que vous avez entendue, je vous disais que l'essentiel des spectateurs évidemment étaient venus voir l'équipe d'Israël et l'équipe de France dans le calme. C'est ce qu'on a pu constater aux abords du stade avant le match, juste avant la partie également dans le stade. Une ambiance pour l'instant bon enfant et donc c'est dans le calme, sans aucun sifflet, que les hymnes ont été écoutés. Et ça c'est aussi une bonne nouvelle ce soir. On s'apprête à assister à un match de football tout simplement entre deux nations qui cherchent à briller sur la scène internationale. Alors pour l'équipe de France, on rappelle vite les enjeux, tout simplement une qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des Nations, qui est une compétition créée récemment. Il y en a eu déjà trois. La France l'a remportée une fois. Mm-hmm. Et l'enjeu, c'est de se qualifier pour les quarts de finale qui auront lieu au mois de mars. Ça remplace des matchs amicaux et c'est aussi un pas de plus vers la Coupe du Monde 2026, parce que parmi les carottes pour les nations qui participent à cette vaste compétition organisée par l'UEFA, il y a aussi un accès facilité. C'est un peu plus compliqué hein, de rentrer dans le détail du règlement, mais ça peut faciliter, on va dire ça comme ça, l'accession et la qualification pour la Coupe du Monde de football qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique en ouais. 2026, dans un petit peu moins de deux ans. Voilà, alors une quinzaine de milliers de spectateurs ici au Stade de France. Le troisième niveau, c'est-à-dire le niveau le supérieur de ce stade qui peut contenir 80 000 personnes, a été fermé. Une partie du bas est également fermée. Les supporters israéliens, qui sont une centaine, ont été regroupés dans un coin du stade là-bas, dans l'espace réservé habituellement, on peut le dire, aux supporters adverses qui viennent ici à Saint-Denis. Et puis les autres supporters, ceux de l'équipe de France, ont été disséminés un petit peu partout. Beaucoup de monde dans les virages, un petit peu de monde également dans la tribune officielle, où il y a des hommes politiques, faut-il le rappeler, deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et l'actuel président Emmanuel Macron. Geste fort, geste politique aussi pour les présidents, qu'ils soient anciens ou actuels, pour assister à ce match. Les Bleus vont jouer toutes bleues vêtues, maillot bleu, short bleu, chaussettes bleues. Les Israéliens, eux, vont jouer tout en blanc, avec pour l'instant un match qui va se préparer. On essaye d'attendre un petit peu que les fumigènes qui ont été allumés s'évacuent du Stade de France, qui est une véritable cuvette. Et puis il faut rappeler aussi, Pia, qu'il y a ce soir, parmi les enjeux sportifs qui sont quand même bien présents, de savoir comment va se comporter cette équipe de France sans Kylian Mbappé de nouvelle fois, et avec le nouveau capitaine titulaire, c'est N'Golo Kanté, avec sa 64e sélection ce soir en bleu.
Et merci beaucoup Jean-Pierre. Et alors, on n'a pas donné les compos des deux équipes. On pourra peut-être donner celle de l'équipe d'Israël dans quelques minutes. Ça va être l'heure du coup d'envoi. Dès que vous avez un créneau, Jean-Pierre, pour nous donner la compo, n'hésitez pas.
Et voilà. On peut y aller, allez-y. Avec une équipe de France. Voilà, c'est parti pour ce match entre la France et l'Israël, avec justement un ballon dans les pieds de la défense tricolore. Alors on retrouve Mike Maignan dans les buts. Devant lui, la charnière centrale sera composée de Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté, William Saliba et lui sur le banc des remplaçants. Il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau match également dimanche soir en Italie à Milan, qui compte lui aussi pour la Ligue des Nations, et que c'est un rassemblement qui comprend deux matchs. Donc peut-être que Didier Deschamps a choisi de faire un petit peu tourner sa défense. Il y a aussi sur le côté droit, alors ça c'est prévu, Jules Koundé très en forme actuellement avec le FC Barcelone. Sur le côté gauche, normalement c'est Théo Hernandez, voilà c'est ça. Et puis au milieu de terrain, autour d'N'Golo Kanté, plutôt axial avec son brassard de capitaine, il y a Eduardo Camavinga, il y a également Warren Zaïre-Emery qui est de nouveau dans cette équipe de France, qui n'a pas été très très convaincant en septembre parmi les Bleus. Et puis l'attaque est composée de Randal Colomouani dans l'axe, avec objectif pour lui de marquer au moins son 9e but en équipe de France, lui qui n'a joué que 50 minutes depuis le dernier rassemblement et qui est beaucoup plus efficace et brillant en équipe de France qu'avec son club actuel, le Paris Saint-Germain. Sur le côté gauche, on aura Bradley Barcola, qui nous a fait tant plaisir quand même, l'un des seuls Français à surnager dans ce triste Euro que nous avons vécu ensemble en Allemagne, n'est-ce pas Pia? Ouais. Et puis sur l'autre côté du terrain, eh bien, il y a également Michael Olysee, qui lui nous a fait plaisir, mais lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà pour cette équipe de France. Côté israélien, on peut quand même citer plusieurs joueurs. Le gardien Daniel Peretz, qui est le gardien remplaçant du Bayern de Munich, remplaçant de Manuel Neuer, excusez du peu, c'est difficile de lui prendre cette place. Et puis il y a aussi Idan Nakmias du Maccabi Tel Aviv, ce club qui est allé jouer à Amsterdam, ce fameux match lors duquel, eh bien, après le certains supporters ont été agressés. Il y a Mohamed Abou Fani, qui est un joueur qui évolue en Hongrie, au Ferencváros en Hongrie. Et puis citons aussi Manor Salomonde, qui joue quand même à Leeds en Angleterre. Il y a des joueurs, évidemment beaucoup de joueurs du Maccabi Tel Aviv, du Maccabi Haïfa. Il y a aussi un joueur qui est remplaçant là, qui est Eli Dassa, qui s'est exprimé hier en conférence de presse, qui évolue au Dynamo Moscou, avec là une attaque française dans la surface de réparation, avec Randal Colomouani qui centre finalement le ballon et est détourné, une frappe lointaine de Jules Koundé. Finalement, il y avait une position de hors-jeu au début de cette action, donc pas de but pour l'équipe de France, mais déjà une situation pour les Bleus, dans une ambiance quand même très particulière. Moi je me répète, mais ça me rappelle un petit peu la période du Covid, et ça fait, ouais, quand même relativement bizarre. Il faut rappeler aussi pourquoi ce match n'a pas été délocalisé. Déjà qu'il n'est pas à huis clos, c'est une volonté absolument certaine de la Fédération et des ministères de l'intérieur, et puis qui ne soit pas délocalisé par exemple dans un autre stade de France, et on en a de nombreux stades qui peuvent accueillir ce genre de matchs internationaux. Et bien c'est tout simplement parce qu'il y a aussi un contrat qui lie l'équipe de France, la fédération, à ce stade de France. Donc pour l'instant 0-0 après 3 minutes de jeu.
Merci mille fois. On va aller voir Benoît Tremoulinas qui suit le match je sais pas où en fait, mais de quelque part qui n'est pas le stade. Benoît, qu'est-ce que vous pensez de Bordeaux? Voilà, bah, comme par hasard. Benoît Tremoulinas, qu'est-ce que vous pensez de l'attaque du match des Bleus et de la compo globalement du capitana sur le biceps de N'Golo Kanté?
Oui, N'Golo Kanté, c'est plutôt normal qu'il ait le brassard du capitaine. Ça reste un maillon fort de cette équipe de France qui a aussi beaucoup d'expérience, qui a énormément donné pour cette équipe. Donc, même si c'est quelqu'un qui ne parle pas énormément, ça reste quand même malgré tout un leader sur le terrain et c'est surtout un leader qui est respecté, écouté. Donc, c'était plutôt logique que N'Golo Kanté prenne le brassard du capitaine. Et puis, concernant cette équipe de France, je trouve que c'est quand même une équipe de France assez équilibrée. Voilà, il donne la chance à avoir Zaïre Emery de retrouver une place de titulaire dans ce milieu à 3. On voit aussi Michael Olise qui fait de très bonnes choses au Bayern Munich mais qui n'a pas encore un match référence en équipe de France, donc il doit aussi trouver ses marques. C'est un jeune joueur, ça lui permet aussi de prendre un peu d'expérience durant ces matchs là et puis il y a aussi Barcola devant qui est un peu l'homme fort du Paris Saint-Germain, qui lui aussi peut-être peut devenir un leader de cette équipe de France. Et Kolo Muani, qui a toujours la confiance de Didier Deschamps, même si au Paris Saint-Germain, il ne joue quasiment pas.
Non, mais il marque beaucoup en équipe de France. C'est même un des attaquants de l'équipe de France, historiquement, qui a le plus marqué sur ses 25 premières sélections. C'est assez incroyable. Merci Benoît Tremoulimas. Jean-Pierre Blimaud, c'est Israël qui avait le ballon il y a quelques instants.
Oui, sur le côté gauche, mais l'attaquant israélien qui était parti et finalement a été signalé hors-jeu, Oscar Gluck, qui joue lui aussi dans un championnat européen puisqu'il joue au Red Bull de Salzbourg en Autriche. Il était parti sur le côté gauche et donc il n'a pas pu aller au bout de son action. En tout cas, toujours 0-0 après 5 minutes de jeu. Une première incursion de l'équipe de France qui n'a pas non plus donné grand-chose puisque l'un des attaquants français était aussi signalé hors-jeu lors du début de l'action qui s'est achevée, on peut quand même le préciser, avec un tir complètement raté, enfin pas complètement raté, mais assez loin du cadre du gardien israélien Daniel Peretz, qui n'a pas été inquiété sur ce coup-là. Alors pour le moment, l'équipe de France, évidemment, qui est virtuellement qualifiée pour les quarts de finale. On peut aussi rappeler qu'en cas de match nul, les Bleus joueront les quarts de finale de la Ligue des Nations en mars, quoi qu'il arrive. Un nul suffit, puisque si la Belgique ne gagne pas contre l'Italie ce soir, eh bien avec un match nul, l'équipe de France, même en cas de défaite, pourrait être qualifiée. Mais on n'en est pas là pour l'instant, on ne va pas tirer des plans sur la comète. Les Bleus qui attaquent là-bas sur le côté gauche avec Randal Kolo Muani. Le ballon maintenant pour Bradley Barcola qui revient derrière pour Eduardo Camavinga. Attention, ce ballon va être écarté à droite avec Jules Koundé. Une équipe de France vraiment rajeunie, il faut dire aussi, il faut le rappeler, par rapport à cette équipe de France où on retrouvait encore des joueurs comme Antoine Griezmann lors de l'Euro. Plusieurs joueurs ont pris leur retraite. Il faut préciser qu'Adrien Rabiot n'est pas dans cette sélection. Le nouveau joueur de l'équipe de l'Olympique de Marseille n'est pas sur le terrain ce soir. Le ballon qui est dégagé là, par l'équipe israélienne sur le côté gauche. On a un petit peu de mal à desserrer les taux français, mais finalement ce ballon va être récupéré par N'Golo Kanté. Voilà, N'Golo Kanté avec Eduardo Camavinga, le joueur du Real Madrid, avec celui du FC Barcelone. On peut être rivaux en championnat et partenaire en équipe nationale, ce qui est évidemment le cas dans plein de pays. C'est le cas bien sûr ce soir, un petit clin d'œil au championnat espagnol et à la Liga dominée par le RFC Barcelone avec évidemment Jules Koundé, étincelant, rayonnant dans cette année 2024, et Eduardo Camavinga, l'ancien Rennais, qui lui est donc au Real Madrid, qui a un petit peu plus de mal, on va le dire, entre guillemets, avec N'Golo Kanté, Kylian Mbappé depuis le début de saison, mais ça reste évidemment...
Vous êtes trompé de capitaine là.
Ouais, ça reste évidemment un énorme club, on se trompe de capitaine, mais on est tellement habitué à voir Kylian Mbappé en équipe de France, un petit peu moins récemment, mais tout de même, ça reste un joueur majeur. Il va revenir, j'en suis persuadé. Et d'ailleurs, Didier Deschamps a demandé hier en conférence de presse, ce journaliste, laisser tranquille Kylian Mbappé en ce moment et surtout de ne plus poser ce genre de questions parce que voilà, il a expliqué pourquoi il ne prenait pas Kylian Mbappé. Enfin, il a expliqué à demi-mot, mais il n'est pas là pour l'instant et certainement qu'il reviendra plus tard. Toujours 0-0 après 7 minutes et 45 secondes en première mi-temps.
Benoît Tremoulinas, qu'est-ce que vous pensez du début de match des Bleus? La possession est un peu plus partagée que ce à quoi on aurait pu s'attendre.
Oui, honnêtement, je m'attendais à une équipe d'Israël très basse sur le terrain, laissant vraiment la possession du ballon à l'équipe de France. Mais non, on voit que malgré tout, l'équipe d'Israël, dès qu'elle récupère le ballon, elle essaie de vite se projeter vers l'avant. On a pu le voir par 2-3 ballons en profondeur. Voilà, il va falloir aussi beaucoup de justesse technique pour cette équipe de France. Souvent, contre ce genre de nation, un but rapidement vous libère et vous rend le match un petit peu plus facile. Donc voilà, l'équipe de France devrait essayer de marquer ce but assez rapidement pour ensuite dérouler son propre jeu.
Jean-Pierre Blimaud au Stade de France.
Ouais, c'est reparti sur le côté droit là pour les Bleus qui essayent de se créer la première véritable occasion avec un débordement il y a quelques instants de Michael Olise qui finalement n'a pas trouvé preneur et le ballon qui a été centré et a été récupéré par l'équipe israélienne qui pour l'instant n'est pas plus en danger que ça, mais attention, hein, seulement 9 minutes de jeu en première mi-temps et cette équipe israélienne qui là est assez basse quand même puisqu'elle subit la pression de l'équipe de France avec notamment Jules Koundé qui est à droite là et qui finalement était au pressing pour essayer de récupérer la balle sur son côté droit tout près du poteau de corner. Ça ne sera pas le cas puisque ce sera une sortie de but pour les joueurs de l'équipe israélienne qui avait été largement battue, hein, rappelons-le, c'était lors du match aller contre l'équipe de France, 4-1. Ça ne s'est pas déroulé en Israël pour les raisons que l'on sait, qu'on a répété, mais dans un petit stade des environs de Budapest et les Français s'étaient donc très largement imposés. D'ailleurs, l'entraîneur de cette équipe israélienne, Ran Ben Shimon, a fait largement tourner son équipe depuis ce dernier rassemblement. Le ballon là-bas sur le côté droit en faveur de l'équipe israélienne qui attaque et qui va essayer de forcer un petit peu la décision, mais bien joué l'équipe de France là-bas avec Théo Hernandez notamment qui faisait bonne garde. Le ballon en touche pour les joueurs israéliens qui vont repartir maintenant dans l'axe. Attention à ce ballon, c'est dangereux, mais intervention à l'instant de la charnière centrale tricolore, Jules Koundé, voilà, qui fait un petit peu le ménage et qui va repartir de derrière avec une équipe française qui va donc repartir avec Théo Hernandez là-bas sur le côté gauche. Hernandez maintenant derrière pour Mike Maignan titulaire, hein, ce soir. Il faut rappeler quand même que dans cette sélection on trouve pour la première fois dans ce rassemblement parmi les trois gardiens Lucas Chevalier, le gardien du LOSC Lille. Et oui, Lille qui a quand même réussi à faire match nul récemment en Ligue des Champions avec la Juventus Turin. J'y étais, hein, pour les antennes de Radio France. C'était vraiment encore une fois une très belle prestation de Lucas Chevalier, très très bon cette année, notamment très très bon, exceptionnel, même lors des confrontations contre le Real Madrid à domicile et contre l'Atlético Madrid à l'extérieur, et encore la main de fer sur l'une des frappes terribles de cette équipe de la Juve. Et je peux vous dire que ce ballon avait été extrêmement bien sorti par Lucas Chevalier qui mérite cette fois-ci cette première sélection. C'est pas une sélection pour le moment, puisque c'est pas une sélection, on peut le dire, puisque la sélection officiellement ne sera comptabilisée que si Lucas Chevalier rentre sur le terrain. Et donc pour le moment c'est une pré-sélection. Il se passe des choses en tribune derrière le but de Mike Maignan. Il y a un petit mouvement de foule là, que je vois, peut-être des spectateurs qui changent de place. Oui, alors c'est peut-être pas forcément très très important, mais
on a entendu des sifflets quand même pendant que vous parliez.
Des spectateurs sont en train de rentrer, peut-être que ce sont des spectateurs qui sont arrivés en retard. Ils sont en train de se positionner derrière les buts de Mike Maignan sur la partie médiane de ce stade de France. Rien de particulier pour le moment, mais le match se déroule pour l'instant dans de bonnes conditions. Les Israéliens avec la balle dans leur propre surface de réparation. Voilà, je vous parlais de Lucas Chevalier qui bien mériterait peut-être d'apparaître au moins une fois en équipe de France assez prochainement. Donc toujours 0-0 après 12 minutes de jeu en première période.
France Bleu, 100% supporters des Bleus.
Benoît Tremoulinas, vous êtes en train de suivre le match pour nous. Benoît, on sent que les Bleus n'ont pas forcément un gros projet en termes de pressing ce soir. Hein.
Oui, c'est vrai que les Israéliens, ils arrivent quand même à avoir le ballon derrière sans avoir trop de pressing de la part des Français. Où je suis quand même assez étonné, c'est que cette équipe de France n'a pas non plus la main mise sur le ballon. Je pensais vraiment honnêtement qu'ils allaient vraiment avoir la possession du ballon dès le début du match et asphyxier cette équipe d'Israël. Et pour l'instant, voilà, techniquement, l'équipe de France a du mal à créer des enchaînements, a du mal aussi dans la percussion individuellement. Donc voilà, il va falloir que cette équipe de France fasse beaucoup mieux sur ce début de match.
Ouais. Après, on a aussi le sentiment de voir une équipe de France qui sent qu'elle a de la marche techniquement et que donc elle n'est pas obligée forcément de mettre le turbo pour que ça se passe pas trop mal, quoi.
C'est sûr, mais après, il ne faut pas tomber non plus dans la suffisance. Vous savez, ce genre de match, c'est bien de se mettre à l'abri assez tôt pour ensuite mieux gérer le match et pouvoir essayer de marquer beaucoup plus de buts. Voilà. Techniquement, physiquement, l'équipe de France est clairement largement au-dessus de cette équipe d'Israël.
et elle doit le prouver sur le terrain. Pour l'instant, ça ronronne un petit peu. Ça regarde un petit peu comment la Ligue d'Israël se positionne sur le terrain, mais il va falloir aussi mettre un petit peu plus d'intensité sur les prochaines minutes.
Merci Benoît Tremoulinas. Jean-Pierre Blimaud, est-ce que vous les trouvez suffisants, nos Bleus, plutôt ronronnants, plutôt concentrés?
Alors pour l'instant, c'est pas non plus la grande équipe de France flamboyante offensive qu'on a connue, mais c'est une équipe de France qui pour l'instant est plutôt patiente. Mais attention, parce qu'il y a des ballons qui sont joués maintenant par les Israéliens qui attendent.